Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h08 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi avec ce matin Pascal Duprat, Marc Madiot, Jérôme Pinault, Christophe Cessieux et notre invité exceptionnel dans quelques instants, Yoann Richaume. Deuxième du Vendée Globe, 11h30. Soyez bien présents au rendez-vous. Les GG remontent le temps. Il y a 12 ans, jour pour jour, les aveux de Lance Armstrong. Le pardon est-il possible un jour? Et je poserai notamment cette question, même si je vous adore Christophe et Pascal, mais j'ai envie d'entendre aussi Jérôme Pinault et Marc Madiot sur Lance Armstrong que vous avez parfaitement connu. Mais tout de suite, on accueille notre invité. 65 jours, 18 heures, 10 minutes, 2 secondes. Lui aussi a pulvérisé le précédent record du Vendée Globe, mais il est deuxième de la course la plus prestigieuse au monde. Pour sa première participation, Yoann Richaume est arrivé près de 23 heures après Charlie Dalin, le grand vainqueur de cette 10e édition. Yoann Richaume est dans le studio RMC. Bonjour Yoann.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Ici, avec les grandes gueules du sport, on a beaucoup de questions à vous poser, évidemment.
On a déjà commencé.
Ça a bien commencé, ouais, d'ailleurs.
Vous êtes... Oui, mais on va pas parler que de Starling, les copains.
Vous êtes
évidemment en bonne compagnie avec, vous connaissez les cyclistes, Marc Madiot, Jérôme Pinault, notre entraîneur de foot, Pascal Duprat, et puis notre éditorialiste Christophe Cessieux. Première question, très simple, et vraiment une question de journaliste, c'est pour ça qu'après je passerai la main. Mais deuxième, quelques jours après, est-ce qu'il y a une petite déception ou pas du tout?
En fait, moi, je suis premier derrière Charlie Dalin.
C'est vrai.
Il faut bien le dire. Charlie, c'est quand même la référence en ce moment dans notre catégorie. Donc,
ça, c'est le média training. Là.
Déjà l'accrocher. Ouais, non, même pas.
Ah bon?
Non. Et trop content. Enfin, déjà pour en arriver là, c'est un truc de dingue. Enfin, pour resituer un peu les choses, nous, on a commencé il y a 3 ans d'une page blanche. On n'avait pas d'équipe, pas de hangar, pas de bateau. Et on a tout reconstruit de zéro, donc c'est une équipe de quasiment 20 personnes aujourd'hui. On a construit un bateau, c'est 50 000 heures de travail. On a fait 2 saisons complètes, je le disais tout à l'heure, 4 transatlantiques, 1 tour du monde. Et on arrive là avec un bateau fiable et 2e du tour du monde. Je pense qu'on peut être que fier de ce qu'on a fait.
Est-ce que tu t'attendais à ce genre de course, une course, j'allais pas dire facile, parce que ce serait faire injure à votre métier et votre passion, mais une course aussi fluide?
Non, je pouvais pas m'y attendre. En fait, t'as raison, hein, globalement, c'était ça. Enfin, le résumé de la course, c'est qu'on a pris une tempête dans l'Indien. C'est improbable, en fait, c'est pas possible. Normalement, déjà, t'en prends deux le temps de sortir de l'Europe.
Du golfe de Gascogne,
ouais. Et non, là, c'était incroyable. Donc, relativement facile en termes de conditions. Après, je m'attendais plus à un groupe serré à l'avant, 4, 5, 6 bateaux. Je pense qu'on était vraiment 7-8 à la base pour la victoire. Après, ben voilà, écoute. Les aléas, le rythme de course fait qu'il y en a qui lâchent au fur et à mesure et on s'est retrouvé à 3 et 2 au final.
C'était ton premier Tour du Monde, Yoann, là ?
Première fois dans les mers du Sud, ouais.
Et est-ce que tu as pu commettre des erreurs de débutant finalement ? Parce que c'est des océans très particuliers, hein, qu'on rencontre pas tous les jours dans l'océan Atlantique Nord. Des choses qui font qu'aujourd'hui, tu aurais peut-être pu accrocher encore un peu plus longtemps, Charlie, notamment dans la remontée de l'Atlantique Sud.
Forcément, il y a des erreurs. Du coup, ici, il a gagné, c'est qu'il en a fait moins que moi.
C'est aussi en raison du bateau, non ?
Il y a un peu le bateau, mais...
L'impression que le bateau était le sien était un tout petit peu plus vite.
En fait, il était plus vite. Alors, on avait chacun notre favori. Donc, moi, c'était la mer formée, le vent, vent arrière, vent portant. Et lui, c'était plutôt face au vent et vent moyen, quoi. Donc, pour les techniciens, aux alentours de 10-15 nœuds, là, il décollait avant tout le monde, mais toute la flotte. Et là, il allait vraiment très vite. Par contre, dans le gros temps, j'allais d'autant plus vite. Donc, je pense que sur un Vendée Globe dur, avec 5-6 tempêtes dans le sud, et tout ça.
Ah ouais?
Je pense que là, il n'y avait pas photo, ouais.
Je rappelle le sponsor.
Mais bon, après, on joue à Paris architectural 3 ans avant, hein. Ouais. Donc, bon, bah, voilà. Sur une anomalie météo, on peut pas.
Et moi, je voudrais savoir.
Marc Madiot.
Tu te blesses, par exemple, en manœuvrant ton bateau. Est-ce que tu avais, je suppose que oui, mais tu avais déjà une formation médicale pour pouvoir te soigner, te recoudre si besoin.
On leur apprend à se couper le bras même, je crois. Hein.
Pas tout à fait, hein, pas en vrai en tout cas. Mais, oui, donc on a une formation survie en mer, donc déjà tout ce qui est hypothermie, déclencher l'alerte, aide sauveté, élitreuillage, passer du temps dans l'eau, etc.
Par exemple, tu te casses les dents.
Tu te casses les dents, t'as un petit kit dentaire. je sais pas ce que tu fais avec dans la réalité, mais bon, tu arrives de toute façon avec l'énergie du désespoir, t'es bien obligé. Faut savoir que ben, quand t'es par exemple dans le Pacifique, là, pour un Nemo, là, t'es à 10 jours de mer pour toi, mais pour n'importe qui d'autre pour venir te chercher. Donc, il faut au moins tenir 10 jours. On sait très bien qu'il y a des sujets, tu tiens pas 10 jours.
Hein. Bah, on se rappelle.
Sur une appendicite.
Il y a Nélias, par exemple, qui s'était cassé la jambe au fin fond de l'océan Indien. Il a été obligé d'attendre que la marine australienne vienne le secourir. On se rappelle de Bertrand Debrun, qui s'était recousu, lui. Ouais. Ah, ça, c'était l'époque héroïque. Johan, hier, on débattait dans cette même émission. Sur justement le est-ce que cette édition du Vendée restera dans la légende. Quand on parle des grandes éditions du Vendée, on parle souvent des éditions qui ont vu des sauvetages héroïques, des moments incroyables, Dinelli évidemment, Bullimore dans les années 90, Eliès ou encore Le Cam avec Escoffier il y a 4 ans. Cette année, tant mieux pour vous, vous avez été épargné. Mais est-ce que tu ne penses pas que le Vendée Globe a besoin aussi de ce genre de choses pour exister, pour rentrer un peu plus dans la légende?
J'étais en train de réfléchir, est-ce que c'est pas le premier Vendée Globe où il n'y a pas de sauvetage? Je ne sais pas trop, mais ça ne doit pas être très loin.
Ça
ne doit pas être bien loin. Ça en fait la légende, donc ça fait comprendre, ça donne des exemples, je pense, pour faire comprendre la difficulté de la tâche. Après, en fait, la réalité, c'est que nous, on le souhaite à personne, ces événements-là. Et je pense que surtout ce qui a fonctionné, c'est le sport, quoi. Enfin, c'est la bagarre, c'est l'intensité de la lutte à l'avant, c'est la compréhension, je pense, de la plupart des gens un petit peu plus à chaque fois de la stratégie, de la météo, de ce qui fait vraiment l'essence de ce sport, quoi. Donc voilà, moi j'ai plus surtout l'impression que on part à chaque fois, chaque édition, un peu plus vers le sportif et un peu moins vers l'aventure. Et moi, c'est ce qui me convient, parce que c'est ce que je vais chercher.
Yoann Richomme est notre invité exceptionnel dans le studio RMC des grandes gueules du sport, avec son bateau, pas près que Arkea. C'est important aussi de le citer, parce qu'il y a du monde derrière un marin. Pascal Duprat, une question pour notre invité.
Oui, déjà, quel plaisir d'être avec toi. Merci, Yoann. Merci, RMC. J'ai vraiment une question, parce qu'il y a un truc qui me taraude, c'est le sommeil et la récupération. Tu te souviens de la plus longue plage sans dormir pendant la course? La plus longue plage sans dormir.
Comme ça, non. Je pourrais te dire une réponse, je pense, à au moins pas loin de 48 heures, 3 jours, je pense.
Ouais, c'est ça. Ou alors, plus de 48 heures sans dormir. Voilà, c'est
zéro de sommeil, mais vraiment faible, tu vois.
Sommeil flash.
Ou les trucs où, tu sais, en fait, c'est tellement intense, t'es dessus, tu te dis, ok, là, je me cale une petite sieste, tu te cales, tu te lèves, et t'es relevé direct, quoi. T'as passé 5 minutes dans la banette.
Et autrement, une journée normale, c'est-à-dire, sans la journée où vous aviez la tempête, une journée normale, tu dors combien?
Bah, on va dire 4-5 heures, je pense. À peu près. En fait, on a énormément de mal à mesurer. On essaye avec des scientifiques de mesurer le sommeil, mais en fait, on n'y arrive pas. Parce que
vous préparez à l'avance à moins dormir avant la course?
Alors non, parce qu'on a l'expérience. Quelqu'un qui n'aurait pas cette expérience aurait besoin sûrement d'un peu de préparation. À titre perso, et Charlie, pareil, ça fait 15 ans qu'on fait ça. Voilà, y a...
Ouais, vous avez l'habitude.
Ouais, moi j'ai l'habitude. Moi je m'endors quasiment instantanément, donc et j'arrive à faire des siestes de 20 minutes sans réveil.
Ouais, heureusement, en plus, si t'es insomniaque et marin, c'est-à-dire tu peux pas dormir quand tu veux. Quand tu décides de dormir, tu dors pas et on sait pas de bol. Ouais.
Hein. Oui, Marc, j'ai le chef Chaudard dans les oreillettes qui me demande la question du manger. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce que tu as le temps de mettre une petite ligne de temps en temps à pêcher du poisson ou est-ce que tu es toujours dans le cellophane?
Elle récupérerait pas grand-chose, la pauvre ligne. Ouais. On fait 18 nœuds de moyenne autour du monde.
Donc, la pêche, on n'y pense pas.
Ah non, on est loin de là. Tout est préparé à l'avance.
Non, mais imagine, tu restes en rade, tu casses ton mât, tu es au milieu du Pacifique.
Oui.
Tu n'étais pas sûr d'avoir assez à bouffer. Comment tu fais? Tu as une petite.
Ah, bah là, oui, là, je crois. Je sais même pas. Je crois que j'ai une ligne de pêche quelque part. Sinon, j'en fabrique une. Dans la réalité, il y a tellement de bouffe à bord. Moi, j'avais 80 jours, tu vois, on en fait 65. Ouais. Et au bout de 10 jours, j'avais fait 4 jours d'économie. Parce qu'au début, non seulement tu dors pas, mais tu bouffes pas. Les deux sont liés en plus. Ça, c'est la technique des joyaux, ça. C'est tu manges pas pour pas dormir. Quand t'es en hypoglycémie, tu t'as pas sommeil.
Bonne tactique. Moi, j'ai une question et vous en avez d'autres, hein, évidemment, les GG, mais j'en ai une parce que ce qu'on reproche, oui et non, au Vendée Globe, c'est évidemment qu'on n'a pas beaucoup d'images. Alors maintenant, avec la communication de plus en plus, et c'est vous qui faites les reporters, hein, sur votre bateau et qui nous montrez ce que vous arrivez à voir, mais on n'imagine pas. Alors, on a des représentations, mais on n'imagine pas ce que représentent des maires du Sud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu vois dans une tempête ou non, mais de si surprenant, de si incroyable ? Parce que toi aussi, tu l'as découvert.
Bah, alors, il y a un mythe des maires du Sud, clairement. Ça, c'est sûr. Après, tu vas, là, il y en a une qui arrive, là, d'ailleurs. Tu vas dans l'Atlantique, là, au mois de janvier, là, demain, aux Açores, il y a 50 nœuds et 9 mètres de mer. Je peux te dire que c'est à peu près la même chose que là-bas. D'ailleurs, c'est à peu près les mêmes latitudes, c'est le même problème. Sauf que là-bas, en fait, les tempêtes, ben, elles voyagent sans rencontrer le continent, du Cap Horn au Cap Horn, quasiment. Tu vois, elles font tout le tour, quoi. Enfin, en exagérant un peu. Après, ben, en fait, c'est l'enchaînement. Tu t'en tapes souvent. Alors, ça n'a pas été notre cas, donc je suis pas bien placé pour décrire tout ça, mais. Et après, ben, c'est la durée, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, si tu traverses l'Atlantique, nous, si on traverse l'Atlantique, on en prend pour une semaine. Là-bas, t'en prends pour 4 semaines, puisque c'est très long, en fait, du Cap de Bonne-Espérance au Cap Horn. Et c'est ça qui en rend, qui en fait un moment unique. Et je te rappelle qu'on passe l'été.
Oui.
Oui. On n'y va pas l'hiver. Et là, je te parle de l'hiver ici. Donc, en fait.
C'est faisable, d'ailleurs. C'est faisable de passer l'hiver?
Pour les glaces, non. Enfin, si, mais tu joues à la roulette belge, ouais. Tu connais ça?
Non, mais ça n'a pas l'air sympa.
T'enlèves une balle dans le canon et tu fais tourner. Là.
Ok. Ah, oui.
C'est l'inverse
oui,
de la roulette
belge. Parce qu'il y a plus de glace, il y a plus de growler et d'iceberg.
Ah, bah oui. Bah déjà, il y en a eu, je ne sais pas si vous avez suivi. Du coup, nous, ils nous ont fait une zone. Ouais. Donc, ils détectent par satellite, ils nous font une zone, on passe. Et en fait, les glaces ont bougé plus que ce qu'ils pensaient. Et donc là, ils ont été obligés de signaler aux autres coureurs derrière où étaient les glaçons.
T'en as croisé, toi, les glaçons?
Non. Non, mais apparemment, ils n'étaient pas si loin.
Il y a
la direction Côte m'a dit à 20-30 000, donc à 50 bornes, il y en avait un.
Ah ouais.
Ouais. Ça, il paraît que c'est très très impressionnant. Ah, c'est vraiment croire, ouais. le truc ouais. qui fait le plus peur aux marins, plus que les
ah bah c'est complètement sournois. Hein, c'est comme, je sais pas, sur la route, t'as un sanglier qui débarque au dernier moment, tu vois. Ouais. Bam, tu te le bouffes.
C'est un gros sanglier, tout le monde.
Je préfère avoir quand même un sanglier que d'être dans ton cas. Je pense que je peux mieux maîtriser.
Là, c'est fini. Si tu tapes un.
Ah oui?
Ah bah oui, là le bateau il va au fond de l'eau, c'est fini, je pense. Ah, ah ouais. Ou alors t'as une chance énorme, hein, mais si t'arrives pleine balle sur un bout de glaçon de plusieurs tonnes, bah non, il n'y a plus personne qui répond.
C'est arrivé à des plus gros bateaux, remarque.
Oui,
il y a longtemps.
Oui.
T'avais pas la ref et puis tu l'as eu. Jérôme Pino, une petite question, je sais que vous en avez fait d'autres.
Moi, je m'intéresse aussi énormément à ce sport et ce qui se passe au sol. Alors, j'ai la chance de connaître.
Le vélo, c'est de la voile, comme dirait Cyril Guimard.
Ouais, mais c'est pas tout à fait pareil dans le sens où on n'est pas solo et on n'est pas face à l'aventure.
Ils sont moins chargés aussi.
On va y venir.
C'est une blague.
Pascal, prépare ta question. Non, moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe au sol et surtout à comment tu vis ce départ. Tu l'as dit tout à l'heure hors antenne, l'angoisse, c'était le départ, comment j'allais gérer ça. Le retour sur terre et comment vivent tes proches, en fait. Parce que tu pars là comme ça, tout le monde flippe, j'imagine, à la maison. Parce que
oui, globalement.
C'est pour eux 63 jours de flip total. Toi, t'es dans ton truc, t'imagines. Et le retour. Parce que je comparais ça à des longues carrières. Quand tu fais une longue carrière, le plus dur, c'est quand t'arrêtes et que tu te retrouves à la maison.
Tu te retrouves avec ta femme, c'est ça.
Et là, c'est un peu les enfants et la gestion d'une vie de tous les jours pour retrouver ta place au sein du foyer. Et là, bah, j'imagine qu'avec ton exploit, tu arrives. Enfin, ton exploit, ta grande performance.
Il est
tu arrives et tu repars.
Maison, là.
Ça se gère comment, ça?
Bah, on l'avait prévu à l'avance. Hein, enfin, je l'avais dit à ma compagne et à mes enfants. Ben, là, les 2 semaines après l'arrivée, j'avais exagéré. Je serai pas là, hein. Donc on se voit à l'arrivée, on se dit bonjour, et après je reviendrai vraiment que dans 15 jours. Quoi. Alors c'est pas vrai puisque ça sera une semaine après, mais bon quand même. Et puis ben, les obligations elles vont continuer, ça c'est sûr, parce que je suis pas encore rentré à la maison, donc je peux dire que tu vois et la ville et les écoles et les ports à Lorient et tout ça, on va tous passer oui. voir tout le monde, hein, normal. Hein. Et il faut remercier tout le monde, hein, parce qu'on est énormément soutenus autour de nous.
Mais en plus, y a, vous avez conscience de ça. Pour nous, c'est quelque chose de quasiment héroïque ce que vous faites. C'est que quand on est dans le sport de haut niveau, comme on a tous fait autour de la table, on fait des choses tous ensemble, des sportifs, on a des footballeurs, on a des tennismen, des basketteurs. Le marin, pour nous, vous êtes hors norme, quoi. C'est-à-dire que tout le monde a envie de vous parler. Ça peut être dur, hein, mais tout le monde a envie de toucher un mec qui a fait le Vendée, qui est parti 65 jours.
Justement, enlève la main de sa cuisse. S'il te
plaît. Tu vois, c'est un mythe. C'est au-delà du sportif de haut niveau. C'est au-delà de ça.
Et en France, on est dans l'admiration et dans le mythe du Vendée Globe. Et moi, je me pose une question. Je suis un peu déçu que le monde anglo-saxon ne soient pas aussi agressifs dans votre discipline qu'ils le sont, par exemple, sur la Coupe de l'América.
C'est vrai. Donc, c'est très franco-français, t'as raison. Il y a
j'ai du mal à
quelques nationalités quand même. J'ai pas le chiffre en tête, mais il y en avait quand même. Il y a 7-8, ouais, globalement. C'est très suivi. Alors, à une époque, on a eu une grosse vague d'anglais qui est arrivée, parce qu'il y avait une académie qui s'était montée là-bas. Ils voulaient monter les centres d'entraînement et tout. Ça nous a donné quelques très bons jeunes, dont Sam Goodchild, qui est quatrième, là, qui va arriver. Donc, c'était des gamins qui arrivaient, qui parlaient pas français. Et on les mettait sur la solitaire du Figaro et tout ça. Et aujourd'hui, ils sont complètement intégrés. C'est des potes, ils parlent français mieux que moi et tout ça. Et ils sont 4 ou 5 comme ça à nous côtoyer. Donc ça, ça a été la grosse unité, un peu l'escadron anglais qui est arrivé il y a quelques années, mais c'est retombé depuis. Alors, bah, tu connais le sujet. Hein, enfin, comment on paye nos projets, hein, par les retombées médias, les valorisations, les trucs comme ça. Donc, quand tu vas vendre un projet à l'étranger pour une marque française, bah, c'est dur, quoi. Et l'inverse est pareil, quoi. Donc après, avec l'internationalisation, ce sur quoi je crois que le Vendée a globalement bien appuyé, bah, ça devrait faciliter l'arrivée de marques internationales. Mais bon, c'est, voilà.
Est-ce qu'il y a des reportages, par exemple, en Australie, en Angleterre, aux États-Unis sur le Vendée Globe? C'est un truc qui me...
Je sais pas comment c'est suivi.
C'est suivi, mais d'ici avoir des reportages télé, je suis pas si sûr, bah peut-être sur un Sam Goodchild, tu vois, là, qui va faire, s'il fait 4 au Vendée, ou 5, peu importe, c'est pas grave, peut-être il y aura des choses, ouais, effectivement. Après, le problème, c'est que du coup, ce sport n'étant pas développé international, qu'est-ce qu'ils font pour être bon? Bah, ils font ça chez nous. Donc, Boris Harman, allemand, il est basé à Lorient, Sam, il est à Lorient, Isabelle Josque, elle est à Lorient, Giancarlo Pedotti, l'italien, il est à Lorient, enfin, tu vois, parce que, en fait, la connaissance, elle est là. C'est pas aussi répandu que le vélo. Donc, nous, tous nos fournisseurs, ils sont autour de Lorient et ils sont spécialisés course large. Tu veux aller faire ça aux États-Unis, par exemple, je sais pas.
Pas capable.
Tu vas galérer pendant un bout de temps. Oui, tu vas perdre un temps fou.
C'est comme en Formule 1, tout le monde.
Tu veux dire par là que vous avez le savoir, en fait, l'Angleterre.
Oui, c'est ça, le savoir. Christophe Cessieux et Pascal Duprat pour une question.
J'ai lu quelques déclats. Toi, tu disais, la voile est souvent tournée vers le passé, la poésie. C'est un peu comme le vélo, d'ailleurs. On se retourne vraiment sur son passé. Et toi, justement, tu as envie d'expliquer au grand public, qu'il n'y a pas que ça et expliquer la technologie. Et tu, je crois que tu avais fait un podcast, où tu expliquer un peu aux gens et à ceux qui sont passionnés par ce métier tous les aspects de la course au large.
Ouais, exactement. Donc pour le Vendée Globe. Alors en fait, j'avais fait en 2016, mais j'avais fait à l'écrit avec des images, et en 2020, j'avais fait un live Facebook qui avait été suivi à sa petite échelle, tu vois, mais effectivement, en fait, mon idée, c'est que aujourd'hui, on a les mots et on a les technologies pour expliquer aux gens la météo, la stratégie et tout ça. Donc, il faut les connaissances pour faire des routages. Et puis, faut trouver le langage qui va avec pour que les gens s'y intéressent. Donc, on va pas intéresser tout le monde. Ça arrivera jamais. Par contre, des gens qui ont un petit intérêt pour le sport, qui veulent suivre l'événement, qui veulent comprendre, pourquoi on prend telle route, où est-ce qu'ils vont aller après. Moi, j'étais capable de leur expliquer en 2020. Alors là, je l'ai un peu fait pour me marrer sur le bateau. Là, j'ai fait quelques épisodes comme ça. Mais en fait, on parle au passé, on dit, ah oui, il a passé la tempête, machin, mais en fait, on se projette jamais, quoi. Tu vois, enfin, des fois, moi, je regarde le vélo, ils disent, ça, c'est une étape qui est pour machin, quoi. C'est une étape de grimpeur, c'est une étape. Et là, en fait, on n'a rien. Et ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve parce qu'on parle de sport. Et tu vois, j'aimerais bien qu'on fasse des débriefs sportifs de voile, des choses comme ça, tu vois. Et ça arrive doucement. On a des émissions, on a des podcasts, on a des newsletters, voilà.
Parler de stratégie, comment on appréhende une tempête et pas de l'après. C'est-à-dire que d'être sur l'instant, là, il y a une tempête, comment on fait, comment je passe, c'est comme un col de hors catégorie, c'est ça.
C'est pareil. Si tu dis, c'est une étape de grimpeur aujourd'hui et c'est pour machin spécifiquement. Moi, ça m'intéresse parce que j'y connais rien en vélo. Mais au coureur, tu l'auras pas appris. Tu l'auras pas appris que c'est ça. Et nous, on a l'impression dans le sport que on va donner la route aux gens, tu vois. Mais nous, notre travail, il est beaucoup plus fin que ça pour étudier une météo. C'est pas en faisant un routage 10 minutes et en disant bon hop, ça passe par là que je vais suivre la route que le mec a indiqué sur une page Facebook.
Sur Virtual Regatta, je regarde.
C'est ce que j'allais dire. Donc 48
heures, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Bon, je vais essayer de passer par là. Mais ça rate toujours.
Donc on est capable autour d'une émission ou d'une présentation ou d'un live d'expliquer la stratégie, de la montrer, d'expliquer la météo.
C'est passionnant.
Et ben ouais, c'est un truc qui est passionnant.
Pascal Duprat.
Ouais, moi un peu plus léger comme question. Toi qui as passé 65 jours donc en mer, tout seul, par rapport au monde réel, qu'est-ce qui t'a le plus manqué et à contrario, qu'est-ce qui t'a le moins manqué? pendant ces 65 jours.
Je rappelle que t'es pas rentré avant une semaine à la maison. N'oublie pas la compagnie.
Normalement, vous étiez prévu 80 jours, donc tu vas gagner.
Normalement, j'étais pas prévu avant fin février. Ouais.
Et on n'a pas dit l'année. C'est peut-être 2020.
Je repars en conseil avec mes potes et te plains pas, je devais pas être là.
Je vais peut-être pas revenir si vite. Ouais. Du coup, au-delà de la famille, hein, on va dire bien sûr, parce que ça c'est une évidence.
Oui, oui.
Franchement, un lit qui ne bouge pas. Parce que j'en avais marre des mouvements du bateau, quoi. Enfin, je sais pas si quelqu'un a déjà fait un peu du rallye ou un truc, ça m'était arrivé une fois de faire un truc. Mais ça secoue de folie. Voilà, c'est pareil.
Et en fait,
j'avais mal au cerveau dans la boîte crânienne. Pas parce que ma tête tapait le bateau.
Parce que le cerveau tapait tout le temps.
Et à la fin, mais t'en as marre, quoi. T'as mal au cervical. Moi, mon ostéopathe, il m'a jamais vu comme ça. Là, il me faisait des heures et des heures de récup, tout étendu de partout. J'ai déjà fait 4 heures. J'ai l'impression qu'on n'a rien récupéré pour l'instant.
T'as le mal de terre, là, ou
non, j'ai pas eu, non.
Descendu,
non.
Ça t'a un peu bougé quand même. Hein.
Après la soirée, un peu, mais.
je prolonge la question de Pascal, parce que t'as pas encore répondu. Qu'est-ce qui t'a pas manqué?
Qu'est-ce qui m'a pas manqué? L'actualité. Parce que, je la suivais beaucoup, mais elle était morose, ouais. Franchement, je trouve qu'on avait réussi notre coup. Alors, du coup, je vais transformer un peu la réponse, mais il y a beaucoup d'éléments à préparer pour réussir un Vendée Globe. Le matériel de rechange, la nourriture, les fringues, emporter ce que t'aimes, ce qui, alors moi, je m'ennuie très vite, donc j'ai besoin de passer mon temps. Donc, j'ai besoin de lire, j'ai besoin d'écouter des podcasts, j'ai même regardé un peu des films de temps en temps, ça dépend de la météo. Et donc tout ça a été bien préparé, j'étais super satisfait, en plus d'un bateau impeccable techniquement, parce que je l'ai dit, je pense que j'ai bricolé une dizaine d'heures sur un tour du monde, alors que Mijdej, je disais, c'était une emmerde par jour. Je l'ai pas du tout eu, et du coup je suis super fier du boulot qu'on a fait, et voilà, parce que notre objectif était aussi pendant 2 ans de fracasser le bateau pour le fiabiliser.
Dernière question, les copains. Je suis désolé, on aurait beaucoup de choses à demander. Je suis bien d'accord. De 2028, on te retrouve?
C'est possible, on étudie la question, en tout cas.
OK. Bah, le but, c'est maintenant, c'est de le gagner. On va rester sur la deuxième place.
Ça va être dur, hein. Ça va être dur. Non, ce serait un autre bateau. Parce que nous, on adore ça, la techno, les prototypes et tout. Ouais, c'est génial. Ouais.
Et avec les adversaires, vous discutez par radio ou
ouais, par radio, si très proche. Sinon, WhatsApp.
Il donnait sa route ou pas, ton copain?
Non, on n'a pas le droit de
parler. C'est sans assistance.
Ça, c'est notre dopage, ça.
Mais vous êtes très proche avec Charlie. Vous avez été.
Ouais, mais il ne parle pas beaucoup, alors c'est dur de dire en discussion. Non, je rigole, mais il est très sympa, mais d'autres.
Merci beaucoup, Johan Richaume, d'être venu nous voir. Le bateau Paprec Archea. Bravo encore pour cette deuxième place. Franchement, c'est vrai que vous faites l'admiration de beaucoup des sportifs ici dans le studio RMC.
Vendée dans 4 ans avec des tempêtes à bloc, comme ça, il va pouvoir démontrer.
Montrer à Charlie Dalin qui c'est le plus fort. Je suis bien d'accord.
Qui c'est le taulier dans la tempête.
Merci, Johan Richaume. C'était un vrai plaisir de vous accueillir sur RMC dans les grandes gueules du sport. Je ne sais pas pourquoi je vous vois alors que Jérôme, vous êtes très proche depuis tout à l'heure. Merci d'être venu nous voir. Merci. Yoann, et à bientôt sur RMC. Tu reviendras dans cette émission parce que franchement, je pense que tu as encore beaucoup de choses à nous dire, donc on va te réinviter. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour le dossier des GG, parce que nous allons remonter le temps maintenant. Et oui, les aveux de Lance Armstrong, il y a 12 ans. Et oui, si tu veux, tu peux rester.
Ça m'intéresse.
Vas-y, reste avec nous.
Tu vas assister à un grand moment.
Le pardon est-il possible? Voilà, c'est notre question. Ce sera un oui ou un non, et après on développera. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h35 de retour sur RMC, les grandes gueules du sport jusqu'à midi. Toujours avec Christophe Cessieux, Marc Madiot, Pascal Duprat, Jérôme Pinault et Johan Richaume, deuxième du Vendée Globe, qui est resté avec nous pour parler de Lance Armstrong. Ce sera dans quelques instants. Un point sur le ski actuellement. Ça se passe à Wengen. La première manche du slalom. Léna Marjac, notre envoyé spécial. Comment ça se passe pour nos Français cette première manche?
Eh bien, on aura 3 Français qualifiés donc pour la seconde manche tout à l'heure à partir de 13h15. Ça passe pour Paco Rassa, pour Clément Noël, 11e, et Steven Amier, le meilleur tricolore de cette première manche. Il se classe donc 6e. Une première manche remportée par un Norvégien, Atli McGrath, qui partira donc en dernière position tout à l'heure. Il va refermer le portillon de départ. Et donc, 3 Français qui vont essayer d'aller chercher, pourquoi pas, des podiums. On l'espère, un premier podium, en tout cas, pour Steven Amier dans sa carrière. Ce serait fabuleux. Fabuleux ici à Wengen, surtout que le papa a fait le déplacement, Bastoun, et là il s'est levé à 3h pour voir le fiston. Donc on espère voir un beau podium aujourd'hui pour l'équipe de France.
Et la deuxième manche, ce sera tout à l'heure avec toi évidemment, Léna Marjac. Allez les GG, remonte le temps. C'était il y a 12 ans.
Yes or no? In all seven of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope?
Yes.
Janvier 2013. Lance Armstrong, à vous, Christophe.
Oui, ce 13 janvier 2013, l'ambiance est tendue dans les salons de l'hôtel Four Seasons d'Austin, au Texas. C'est là que Lance Armstrong a donné rendez-vous à la reine du talk-show américain, la célèbre Oprah Winfrey, pour une interview qui s'annonce explosive. Le septuple vainqueur du Tour de France, vénéré jusque-là par toute l'Amérique, est conscient que les mots qu'il s'apprête à prononcer vont probablement changer sa vie.
Oprah et Lance Armstrong, le worldwide exclusive.
Yes or no? Oui ou non?
Did you ever take
avez-vous pris des produits dopants pour améliorer vos performances?
Yes.
Yes or no?
Was oui one of those ou non? Avez-vous pris de l'opéo?
Yes.
Did you ever blood dope or
avez-vous utilisé du dopage sanguin ou des transfusions sanguines pour améliorer vos performances?
Yes.
Et ainsi, pendant plus de 2h30, le Texan passe à confesse, répondant par l'affirmative aux 112 questions préparées par Oprah. Un acte de contrition douloureux pour Armstrong qui, en 14 ans de carrière, avait toujours nié avec force les accusations dont il était l'objet. Mais au fil des ans, les légers soupçons du début se sont transformés en preuves irréfutables, depuis notamment qu'en 2010, Floyd Landis, l'un de ses anciens équipiers, ait décidé de vider son sac.
One big lie. Avez-vous vu Lance prendre de l'EPO?
Oui, absolument. J'en ai même reçu de sa part en 2003. C'était nécessaire parce que si vous vouliez faire une autotransfusion, vous deviez utiliser de l'EPO pour maintenir votre taux sanguin. Et c'était la routine. Est-ce que ça faisait partie du boulot? Ouais, c'était une chose banale.
Des révélations qui vont entraîner une réaction en chaîne. Tour à tour, une enquête fédérale, puis une autre de l'USADA sont lancées. Quelques mois plus tard, Travis Stigart, le patron de l'agence américaine antidopage, vient livrer à la presse les conclusions d'un dossier de plus de 1000 pages.
Réellement, toutes les preuves que nous possédons sont convaincantes et accablantes. Nous avons des témoins et des révélations qui n'ont jamais été présentées avant. Désormais, nous avons des preuves formelles.
Même l'UCI, qui avait toujours jusque-là couvert Armstrong, est contrainte cette fois-ci de le lâcher. C'est Pat McQuaid, le président de la Fédération internationale, qui prononce le verdict. L'UCI va bannir Lance Armstrong du cyclisme et lui retirer ses 7 titres du Tour de France. Lance Armstrong n'a plus sa place dans le cyclisme, il doit donc être effacé. Une annonce qui fait boule de neige. En quelques heures, tous les soutiens d'Armstrong le lâchent, un à un. Trek, Oakley, Nike ou encore Livestrong, sa fondation contre le cancer. L'ancienne idole estimera le coût financier de sa déchéance à 111 millions de dollars. Acculé, pris à la gorge, Armstrong ne peut plus reculer et décide alors d'avouer ses fautes, espérant peut-être émouvoir l'Amérique. Il n'en sera rien ce jour-là devant Oprah et plus de 28 millions de téléspectateurs de par le monde. Le champion adulé se mue en pestiféré et devient à jamais le symbole même du dopage.
C'était il y a 12 ans, rendez-vous compte, le 18 janvier 2013, les aveux de Lance Armstrong. Notre question, 12 ans après, il me faut un oui ou un non. Je le dis pour Johan, qui est notre nouveau venu dans les grandes gueules du sport. Le pardon est-il possible? Oui ou non? Jérôme Pinault.
Oh non, jamais.
Jamais. Marc Madiot.
Moi, je suis plus pour l'oubli.
Ok. Pascal Duprat.
Non, j'ai pas envie d'oublier, on en reparlera, non.
Non, Christophe Cessieux.
Je pense que le pardon est peut-être possible.
Le pardon est possible, ok. Yoann Richaume, oui ou non?
Sûrement pas.
Ok, Jérôme Pinault, forcément, c'est pour toi, c'est cousu main, hein, ce débat Armstrong. T'as couru avec lui, hein, je rappelle, enfin pas dans la même équipe, mais...
J'ai couru avec lui et pour pardon, il faut déjà qu'il présente ses excuses aux principales victimes, c'est-à-dire les coureurs, le peloton de l'époque et tous les gens qu'il a tyrannisé pendant toutes ces années. Parce que il a gagné, certes, il a dominé, certes, il a du talent, évidemment, mais il a tyrannisé un peloton. Il est arrivé dans les années après 98, là où on avait tous envie de reprendre un départ nouveau. Moi, j'étais junior en 98, donc quelque part, j'arrivais dans une ère nouvelle. Ce mec-là a réinstauré et a continué à se foutre de la tronche de tout le monde, à se moquer du peloton, à humilier ses adversaires, en obligeant certains de ses coéquipiers à se doper, en mettant la main sur l'UCI, Arjen Verbruggen, et le complice de ce vol à grande échelle. Et il a instauré une atmosphère délétère dans le peloton, à mentir. Il a menti à des gens malades, il a menti à des coéquipiers, il a menti à des instances, et il a fini par craquer parce que monsieur était pris au piège et allait devoir payer. En revanche, les principales victimes, il s'est jamais excusé. Lance Armstrong n'a jamais présenté ses excuses au peloton pour le vol de cette Tour de France, pour le vol de peut-être certaines carrières. Moi, je sais qu'à l'époque, j'étais pas très talentueux, mais ce mec-là m'a sûrement empêché d'être meilleur. Mais je pense aussi à des coureurs que Marc avait dans son équipe, hein, Sandy Cazard, par exemple. Nous, on passait tous pour des tocards parce qu'on était nuls, parce qu'on n'arrivait pas à les suivre.
Mais un mec comme et surtout parce qu'on s'entraînait pas.
Parce qu'on savait pas s'entraîner.
Mais il y avait que son équipe qui se dopait.
Écoute,
tu parles de ces années-là. Moi, c'est ça la question.
Quand il est
important,
en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il a tyrannisé le peloton. Que quand il est arrivé en 99, il y avait la possibilité de faire un cyclisme nouveau. Il avait la possibilité d'instaurer des nouvelles choses dans le cyclisme, et il a été la locomotive de la continuité des tricheurs. Il y a un pays qui s'est arrêté. Marc, on peut se regarder dans les yeux, qui s'est arrêté de
c'est
faire
la France.
C'est la France. Et ce mec-là, il a porté derrière lui tout ce cyclisme-là, et nous, les Français, on a été humiliés. Moi, ma génération a été humiliée à cause de tout cela. Alors, il n'est pas le seul responsable. Mais en tout cas, pendant des années, il nous a donné des leçons, entouré par sa garde rapprochée, parce que je mets dans le même sac les Johan Brunel, etc. Ce garçon-là ne doit pas et ne peut pas être excusé de quoi que ce soit et ne mérite pas le pardon.
Ok, Johan Richaume, vas-y, dis-nous, pourquoi non ?
Ah, pourquoi non ? Parce que moi, j'ai l'impression que je viens déjà d'un sport propre. Donc j'espère qu'on n'en arrivera jamais là. Forcément, c'est un danger. Et après, bah, j'ai vachement suivi cette histoire-là. Je me suis fait tous les reportages, et c'est juste, enfin, le système que tu décris. Et je suis hyper heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour vivre ce moment. Mais c'est juste ce qui a été monté. C'est impardonnable, quoi. C'est
impardonnable. Et pourtant, alors, c'est pas à la même échelle que Lance Armstrong. Et on parlait de tyrannie sur le peloton. Mais Christophe, à un moment donné, on fait souvent des débats sur est-ce qu'on a droit à une seconde chance. Est-ce que quelqu'un qui a pris la main dans
Je voudrais même pas en aller aller sur ce terrain-là. Mais j'ai quand même l'impression que Armstrong, après avoir été le modèle absolu du cyclisme lorsqu'il était coureur, l'icône finalement que recherchait le cyclisme à l'époque, Verbruggen, le patron de l'UCI, était très content d'avoir ce gars-là qui venait d'Amérique, qui s'était sorti du cancer, c'était un exemple parfait. Aujourd'hui, il est devenu exactement le contraire, c'est-à-dire le bouc émissaire parfait. Il est l'homme que l'on adore haïr, il est celui dont on ne doit pas prononcer le nom, faute de quoi il faut filer à la salle de bain immédiatement, se laver la bouche au savon noir. Il est aussi le symbole de ces années de plomb où tout le cyclisme triché. Oui, ben je suis désolé.
Non.
98
avant lui.
98. Tout le monde était à la bonne sous-soupe de l'OPO.
Oui, première victoire de Lance Armstrong dans le Tour de France.
99. C'est 99. Tu penses qu'avec l'affaire Festina, tout le monde a renoncé. Il n'y avait aucun moyen. Détecter l'EPO en 99.
Sauf quelques coureurs.
Donc je pense que pour le monde du cyclisme, eh bien, ça a été parfait. On avait enfin trouvé celui, alors évidemment que en plus il rassemblait tout parce qu'il était antipathique, c'était un dictateur. Je me rappelle ce qu'il avait fait à Simeoni, qui avait osé critiquer le docteur Ferrari qui était le médecin d'Armstrong. Il était parti en échappée, il était allé le chercher en disant toi tu pars pas, tu restes là, tu pourras jamais plus t'échapper. Il avait fait la même chose à Christophe Basson, il lui avait dit toi il faut que t'arrêtes le cyclisme, et celui-ci avait abandonné. Donc c'était un odieux personnage, mais je trouve que c'est un peu facile de dire que il était le seul responsable et le seul à utiliser ces méthodes. Je suis désolé, je sais que vous êtes dans le milieu depuis très longtemps, mais il y en a d'autres qui ont touché à la bonne sous-soupe, et aujourd'hui c'est très facile de dire c'était Armstrong le méchant, nous on était évidemment blancs comme des...
Je vais abonder dans le sens de Christophe.
45. Pascal, promis, oui. Ça, je vais faire un petit teasing, okay. Parce que c'est passionnant ce débat, on n'a pas encore écouté Marc Madio qui n'attend que ça d'entrer dans l'arène. Pascal Duprat également, on reste sur ce débat jusqu'à la fin de cette émission. On parle de Lance Armstrong. Est-ce qu'il a le droit au pardon ? Venez nous dire ce que vous en pensez au 32-16. Quelques instants de publicité et on revient, promis. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
De retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Marc Madio, Pascal Duprat, Jérôme Pinault et Johan Richaume, deuxième du Vendée Globe, qui est notre invité exceptionnel ce matin et qui reste en studio avec nous pour parler aussi de l'actualité. Enfin, l'actualité, on parlait des années Armstrong, mais en tout cas, parler avec nous de sport, hein, et pas que de voile, évidemment. On va reprendre le débat dans quelques instants. Juste deux choses à vous annoncer aujourd'hui sur RMC. Vous le savez, ça a été une semaine fantastique avec John Textor, avec Thierry Henry avec Pablo Longoria, et bien ça va continuer aujourd'hui à 19h30 dans Bartoli Time. Marion Bartoli reçoit Jean-Michel Aulas qui répond à John Textor. Ok, 19h30, notez bien ce rendez-vous. Et puis 13h dans Stephen Brunch avec Stephen Brun, Tony Parker sera l'invité exceptionnel et il viendra parler évidemment de la venue de la NBA dans quelques jours à Paris, notamment de Victor Wembanyama. Allez, reprenons le cours de notre débat. C'était il y a 12 ans, janvier 2013, les aveux de Lance Armstrong à la télé américaine, mais évidemment devant le monde entier. Vous n'êtes pas encore exprimé, Marc Madieu et Pascal Duprat. On va faire durer le suspense un peu. Pascal Duprat, pour commencer.
Oui, ben, en fait, quoi, en tant que passionné de sport et d'ancien sportif de haut niveau, franchement, je peux pas le pardonner, quoi. Le dopage dans le sport, quel que soit le sport, c'est absolument scandaleux. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en 2024. Je sais pas si vous avez lu la déclaration de Vingegaard hier, mais j'ai l'impression que c'est toujours la même ambiance, quoi. Il y a toujours des suspicions de dopage. Et je sais que Marc a envie de prendre la parole, je vais lui laisser. Je sais aussi que lui, il a fait un choix avec ses équipes, c'est d'être clair, c'est d'être transparent, mais j'ai pas l'impression que tout le monde est encore transparent dans le cyclisme.
Interview au Monde, je resitue, de Jonas Vingegaard. Mm-hmm. Hier, on voulait en parler ce matin, on en reparlera, promis, dans cette émission. Il a déclaré qu'il voulait que l'Agence mondiale antidopage interdise l'usage du monoxyde de carbone. On en a longuement parlé dans cette émission. C'est d'ailleurs, à mon avis, les propos de Marc Madieu et Jérôme Pinault qui ont un petit peu secoué le cocotier de l'UCI et de l'AMA pour se positionner, même si cette histoire n'est pas encore réglée. Et là, il veut son interdiction. Sauf que Jonas Vingegaard, durant le dernier Tour de France, il a pris, lui aussi, du monoxyde de carbone. Voilà, c'était pour situer. Marc Madieu.
Alors, la question du jour, c'était les aveux d'Armstrong. Le pardon est-il possible un jour ? Pour donner le pardon, faut-il encore qu'il soit demandé ? À ma connaissance, ou alors j'ai pas tout lu et j'ai pas tout suivi, Lance Armstrong n'a pas demandé le pardon et ne s'est pas plus excusé que cela auprès du peloton de l'époque. Donc, avant de parler de pardon, moi, je pense que le plus important, c'est à lui d'avoir cette démarche de demander pardon. Après, il sera toujours temps éventuellement de répondre à cette question.
Tu tendrais la main, toi ?
Si on demande pardon, au moins on aurait la possibilité d'échanger directement ou indirectement avec lui. Moi, Armstrong, je l'ai côtoyé dans le peloton sans le côtoyer, de par le fait que j'ai jamais eu de conversation avec lui. J'ai juste ressenti des intimidations, des pressions. On voyait quand il y avait eu dans le Tour, il y avait eu une initiative de tenter de faire des étapes sans les oreillettes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Cette journée avait été complètement bafouée. L'étape avait été vendangée par Armstrong et quelques autres pour pouvoir continuer à travailler avec les oreillettes. Donc, le dopage Armstrong, c'est une chose. L'attitude et le comportement du personnage, c'est autre chose. Et j'ai presque envie de dire aujourd'hui qu'il paye plus
Que
son dopage. Il y en a eu d'autres dopés après derrière, peut-être même plus dopés que lui, mais l'effet boomerang a été moindre parce que il n'y avait pas cette emprise et cette pression mise sur le reste du peloton. Et je pense que s'il veut retrouver une forme de stabilité ou sans obtenir la rédemption totale ou le paradis, je pense que ça passe d'abord par une demande de pardon et peut-être un échange avec une partie du peloton de l'époque, des coureurs qui ont subi ces pressions. Et je pense que ça commence par là avant d'aller sur le pardon. Et moi, pour le moment, ma position, elle est très simple. Je suis plus pour l'oubli. Tant que la demande de pardon n'a pas été effectuée, je suis plus pour l'oubli.
On va poster ça sur les réseaux sociaux et on va voir, et on va citer Lance Armstrong et on va voir si il a envie de demander pardon.
On le voit aujourd'hui, la réponse elle est claire. Il s'entoure que de gens qui l'idolâtrent encore. Il discute avec sa caste à lui. Il dénigre totalement les gens qu'il a intimidés et écrasés par son dopage et son caractère à l'époque. Ses potes aujourd'hui autour du podcast, c'est Georges Hincapie. Il a accueilli Bradley Wiggins
qui a pourtant balancé sur lui,
mais ils se sont expliqués depuis. Il a accueilli Yann Ulrich.
Justement, je trouve que c'est plutôt une bonne action. Dire Ulrich était quand même au fond du trou, dépression nerveuse totale, inquiété par la justice. Il a tendu la main
Moi, je voudrais qu'il appelle Sandy Cazard, qu'il aille en région parisienne.
Ça veut dire qu'il n'est pas totalement perdu, notre notre ami Armstrong. Il est peut-être pas totalement perdu avec ce qu'il a fait par rapport à ses anciens adversaires.
Mais, Jérôme,
mais ce serait bien aussi qu'il le fasse pour d'autres plus anonymes.
Jamais de la vie.
Après, moi, je voudrais dans la continuité de ce qu'on vient de dire sur Armstrong, ce qu'a fait Vingegaard dans l'interview dans Le Monde est pour moi extrêmement intéressant. Et c'est dommage qu'on n'ait pas le temps aujourd'hui d'en parler. Parce qu'on est quand même dans un truc où on suppose et on imagine que des coureurs ont eu recours
au
monoxyde de carbone. Et là, on a un des deux ou trois meilleurs coureurs du monde actuellement qui fait état de cette situation et qui pose le sujet sur la table pour faire en sorte que personne n'utilise le monoxyde de carbone. Je trouve que c'est une belle avancée dans la lutte antidopage parce qu'il y a une prise de conscience quelque part. Je ne sais pas s'il l'a utilisé ou pas, Vingegaard, le monoxyde de carbone.
Il le reconnaît.
Il dit pour tester son niveau de
Ça peut être détourné à des fins mal intentionnées.
Voilà. Et là, l'ancien vainqueur du Tour puisse dire cela en conférence de presse, tout en sachant que la concurrence va le lire. Je trouve ça extrêmement intéressant.
Eh bien,
et je pense que ça ouvre un débat nouveau dans la lutte antidopage, et je pense qu'il faut prendre très au sérieux ce qu'a exprimé Vingegaard, et ça doit déboucher sur quelque chose de plus fort et de plus intense, notamment avec les instances, que ce soit l'association des coureurs ou avec les instances de l'UCI, le président l'appartient. Parce que là, on met le doigt sur quelque chose qui peut être un déclencheur extrêmement intéressant et important. On sait tous que le monoxyde de carbone, aujourd'hui, on ne le retrouve pas, ni dans les urines, ni dans le sang, ni dans les cheveux. Et là, on a un coureur qui dit, attention, l'usage du monoxyde peut être détourné. Et ce coureur qui en parle, c'est l'ancien vainqueur du Tour. Donc c'est très intéressant.
L'enquête est toujours en cours et promis, on a initié ce débat il y a 2 mois. On reparlera du monoxyde de carbone et c'est vrai qu'il visait notamment l'équipe de Pogacar. Merci beaucoup les GG et on remercie Johan Richaume d'avoir été avec nous, deuxième du Vendée Globe. Il n'y a pas de dopage, peut-être technologique dans la voile.
Oui, mais c'est notre problème. On a nos problèmes à nous, hein, c'est clair. Mais on essaie de les régler aussi et que ça finisse pas sur la place
merci
publique.
Merci Johan, en tout cas.
Pas de moteur dans vos bateaux, c'est sûr. Hein, c'est pas comme les coureurs cyclistes.
Nous, on a un moteur. Mais il ne fait pas beaucoup avancer le bateau, je peux te dire.
Merci beaucoup, Johan, et à bientôt sur RMC. Dans quelques instants, les paris RMC, vous pouvez retrouver cette émission passionnante en podcast, évidemment. Passez une très très belle journée.